France Inter.
Aujourd'hui, la vie sensible et invisible des plantes, racontée par
Delphine Arbelet-Bonin, ingénieure d'études en biologie végétale à l'Université Paris-Cité.
Et Lucia Sylvain-Bonfanti, doctorante interdisciplinaire en géographie et en biologie à l'Université Paris-Cité.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Nous sommes au XIIe siècle dans le silence d'une abbaye sur les bords du Rhin. Une femme écoute pousser la vie, elle s'appelle Hildegarde Bingen. Religieuse, guérisseuse, philosophe, artiste et scientifique, elle vit au cœur de la Rhénanie entre les forêts sombres et les coteaux de vignes qui descendent vers le fleuve. C'est dans cette région de l'Allemagne qu'elle fonde son abbaye et développe une pensée singulière à la fois spirituelle et naturaliste. Hildegarde parle d'une force qui traverse toute chose, la viriditas, un mot latin qu'on pourrait traduire par verdeur, verdure, ou mieux encore la puissance verte de la vie. C'est la sève qui monte dans les plantes, la rosée du matin sur les herbes, la chaleur du soleil dans la chair des fruits, mais aussi la vitalité intérieure qui anime l'humain, cette part végétale que nous portons tous. Pour Hildegarde, Dieu n'est pas au-dessus du monde, il circule à travers lui. Chaque être vivant est traversé par cette énergie divine, cette viriditas qui nourrit, soigne et relie, mais elle en fait la clé d'une médecine, mais aussi d'une philosophie. Penser le monde à partir des plantes, à partir de ce qui pousse, se déploie, s'enracine et se régénère. Ce regard, 1000 ans avant l'écologie moderne, bouleverse encore aujourd'hui, mais c'est la science qui nous a permis depuis de déplacer notre regard sur le monde végétal. Les plantes que l'on croyait insensibles révèlent peu à peu une activité discrète, mais extraordinairement fine et organisée. Elles ne fuient pas, ne chassent pas, ne parlent pas, et pourtant, elles communiquent entre elles et s'adaptent à leur environnement. Fixées au sol, elles ont inventé une autre manière d'exister. Elles fabriquent leurs ressources, se réorientent vers la lumière, coopèrent avec les champignons, alerte sur leurs voisines du danger. Ce que Hildegarde appelait viriditas, la science redécouvre aujourd'hui et le redécouvre sous d'autres formes, des signaux chimiques, des réseaux souterrains ou une communication cellulaire. Et c'est cette histoire sensible des plantes que nous allons vous raconter.
Les plantes sont capables de percevoir l'environnement avec beaucoup de subtilité. Elles sont beaucoup plus sensibles que les animaux. Et elles ont besoin de l'être, car elles ne peuvent pas fuir le danger en courant.
La voix du professeur Stefano Mancuso de l'Université de Florence en neurobiologie végétale, c'est sa spécialité. Delphine Arbelet-Bonin et Lucia Sylvain-Bofanti, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et bienvenue dans La Terre au Carré, vous qui publiez aux éditions Ulmer, Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélée par les sciences. Hildegarde de Bingen, j'en parlais donc dans la présentation, elle traverse un peu votre livre comme une figure tutélaire. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Delphine Bonin ?
Moi, c'est l'image, déjà c'est une femme, et ça me semblait important, et je trouvais ça inspirant. C'est une femme inspirante qui était finalement interdisciplinaire avant l'heure.
Au Moyen-Âge, on le rappelle.
Au Moyen-Âge, bien avant toutes ces sciences. Et alors même si, évidemment, il y avait derrière tout ça une interprétation divine, elle avait quand même une sensibilité à la nature. Et elle a apporté des tas de choses, finalement, qui sont, vous l'avez très bien dit, qui sont des bases scientifiques du naturalisme qui est apparu après.
Lucia Sylvain, c'est ça finalement, la science des centaines d'années plus tard a finalement apporté des preuves à ce que disait cette femme.
Exactement, et on a de plus en plus justement cet œil-là du sensible, notre sensibilité s'ouvre à la sensibilité végétale, au plus que les découvertes avancent.
Et ça fait l'objet de vos travaux, parce qu'avant de découvrir l'autre visage du monde végétal, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous, Delphine Bonin. Comment est-ce que vous avez été amenée à vous intéresser au comportement des plantes ? Comment on choisit cette discipline exactement ?
J'ai pas choisi cette discipline, c'est peut-être la discipline qui m'a choisie, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours été passionnée par les plantes. J'ai toujours été attirée par les plantes, leur beauté, leur singularité. Bon, un truc un peu peut-être banal, finalement. Donc j'ai fait des études de physiologie végétale. Et c'est pas le comportement des plantes qu'on apprend quand on apprend la physiologie végétale. Mmh. On apprend ce que c'est que la photosynthèse, les hormones végétales, etc. Et finalement, c'est vraiment quand je suis arrivée dans le laboratoire dans lequel je suis actuellement, qui est le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, où j'ai rejoint l'équipe de François Bouteau, que là, j'ai vraiment compris la portée de ce qu'étaient réellement les plantes et ce qu'on entend par comportement, c'est-à-dire leur réaction dynamique au monde, finalement.
Ouais, et ça, c'est une discipline assez récente, en tout cas, c'est un pan de recherche qu'on n'explorait pas de la même manière il y a encore quelques décennies.
On l'explorait. Alors, il y a des choses qui ont été explorées il y a déjà des siècles. Hein. Le fait qu'elles sont sensibles, que les mouvements sont présents. Les Darwin, déjà, l'étudiaient. Hein. Mmh. Après, il y a eu un grand moment où ça a été moins étudié. Et ça revient peut-être aussi parce que les outils scientifiques nous permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas forcément il y a quelques siècles. Et donc, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de remettre au goût du jour cette sensibilité. Voilà.
Et d'explorer une autre face des plantes, hein, comme on va le voir avec vous. Et vous, Lucia, Sylvain, vous êtes particulièrement intéressée à la question des sensibilités d'ailleurs des plantes. Comment vous êtes arrivée sur cette voie?
Alors moi, c'est une voie qui n'est pas un chemin tout tracé. J'ai commencé par la psychologie. Et puis j'avais envie de savoir les mécanismes qui étaient derrière les études en psychologie, donc j'ai fait des neurosciences.
Mais pas pour les plantes au départ.
Et pas du tout pour les plantes, non, moi je viens pas du tout d'un monde où on étudiait le végétal, donc j'ai fait des neurosciences, donc là encore c'est très cerveau, j'ai choisi un parcours moléculaire, cellulaire et intégré. Et puis en fait j'ai un problème, c'est que je tombe dans les pommes à la vue du sang.
C'est vrai.
Donc je pouvais pas travailler sur les animaux. Ouais. Donc pour fuir le monde végétal, le monde animal, j'ai trouvé cette équipe et je suis partie faire un travail de recherche pour mon master 2 chez François Bouteau avec Delphine, et c'est là que l'aventure a commencé. J'ai découvert en fait que ce qu'on pouvait étudier sur les animaux pouvait être retrouvé chez les végétaux, et là ça a été une révélation pour moi.
Et on peut parler de cerveau chez les plantes?
Pas du tout.
Ah bon?
Les plantes n'ont pas de cerveau, ouais, on ne parle pas du tout de cerveau, mais par contre elles ont des communications cellulaires, des messages électriques, des messages chimiques qui communiquent entre les cellules. Elles ont des réactions, il y a des réponses, il y a même ce qui compose une cellule végétale, il y a des similarités. Et c'est tout ça que j'ai appris en arrivant dans cette équipe, et donc j'avais envie de le partager.
Et ça peut faire presque penser à des réseaux de neurones alors, finalement, chez les plantes, si on fait des espèces de comparaisons comme ça grossières, mais...
Mais les messages sont assez équivalents, en fait. On a pas mal de résultats. En tout cas, j'ai utilisé les mêmes outils que j'utilisais pendant mon master de neurosciences sur les plantes. Voilà. Et sur les cellules végétales, c'est possible d'utiliser ces outils-là, donc c'est génial.
Et vous n'êtes jamais tombé dans les pommes devant une plante.
Et je ne suis jamais tombée
dans les pommes.
Exactement, mais j'ai découvert cette sensibilité.
Vous pouvez continuer encore longtemps dans cette voie. Quand vous parlez de sensibilité végétale, Delphine Bonin, vous parlez de quoi exactement? Comment on définit cette sensibilité qui ne ressemble ni à celle des animaux, ni à la nôtre, animaux humains?
Alors nous, ce qu'on entend par sensibilité... Dans ce livre-là, mais qui est finalement quelque chose qu'on peut estimer de commun, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. La sensibilité, c'est vraiment la capacité à recevoir des informations de son environnement, à faire en sorte qu'il y ait un message qui circule dans la plante, donc la transmission de la réception de ce message-là,
ouais.
Et la réaction qui en suit. C'est vraiment ce trio, en fait, d'actions, finalement, qui engendre la sensibilité des plantes.
Donc c'est la perception finalement au monde qui entoure les plantes
Alors la perception, c'est un mot qui n'est pas forcément facile d'utiliser quand on parle en biologie en tous les cas, parce que perception, ça engendre justement peut-être plutôt des questions d'intégration neuronale, etc. Mais en tous les cas, c'est vraiment une réception d'un message et ensuite... Action, réaction.
Lucia Sylvain, on peut parler d'un langage chez les plantes?
Alors, on peut pas forcément parler d'un langage, mais en tout cas, on peut parler tout à fait d'une communication.
Ouais.
Nous, on fait vraiment attention aux définitions qu'on utilise.
Oui, c'est...
Parce qu'on aimerait
très
être
sensible là aussi. Hein.
Exactement, oui, il y a une grande sensibilité aux définitions, et dans tous nos travaux, on essaye justement d'utiliser les mots justes. Donc on ne peut pas vraiment parler de langage, parce que, après, ça dépend toujours de définition, ça c'est sûr, mais en tout cas, nous, on parle certainement de communication.
En tout cas, c'est vrai qu'on pense toujours que les plantes ne bougent pas, qu'elles sont là, fixées dans le sol. Or, votre livre, précisément, montre qu'elles sont traversées de mouvements. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette sorte de mobilité silencieuse exactement?
C'est une mobilité ou une capacité à se mouvoir qui est soit trop lente par rapport à nos yeux, donc finalement on n'est pas équipé pour voir ces mouvements-là.
Ouais.
Pourtant ils existent, ils sont liés en général à la croissance de la plante, puisqu'elle va s'orienter là où elle a besoin de s'orienter. Et donc si on accélère le temps, on est capable de voir ces mouvements-là. Mais c'est perpétuel en réalité, c'est ouais. tout le temps. Donc c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas.
C'est un rythme propre à la plante en
c'est
fait.
C'est un rythme qui n'est pas lent, le nôtre, propre à la plante, effectivement. Ouais.
Et donc ça, l'œil humain ne peut pas le percevoir. Mais pourtant, il y a une grande précision dans ces déplacements, finalement, de la plante.
Ah bah tout à fait, on appelle ça des tropismes, par exemple, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers ou à l'inverse, donc tropisme positif ou tropisme négatif, la source, finalement, de cette stimulation.
Lucia Sylvain ?
Oui, et puis aujourd'hui, on a plein d'outils pour pouvoir les voir, et ça c'est super. Par exemple, les vidéos en accéléré, tout simplement, on peut même ouais. faire l'expérience chez nous de voir que toutes nos plantes bougent en fait.
Alors quand on dit bouge, là, par exemple, si justement on le met en accéléré, c'est sur quelle échelle en fait ? Comment ça se passe ?
Échelle de temps ?
Ouais, enfin non, de échelle de distance. Quand vous dites qu'elles bougent en fait, elles arrivent à bouger et à avancer, ou c'est vraiment ça reste fixe et c'est le mouvement ?
Bien sûr, ça reste fixe, oui. Oui, la plupart ouais. des plantes restent fixes. C'est d'ailleurs tout l'objet aussi de ce qu'on veut dire et dans nos messages, c'est que la plante est fixée et donc elle a une autre façon de capter le monde et donc même une sensibilité qui lui est ouais. propre justement à cette condition d'ancrer en fait.
Delphine Bonin, votre approche, ça mêle les sciences modernes, donc ce que vous faites, hein, et puis aussi beaucoup les savoirs anciens, vous y revenez abondamment dans cet ouvrage. Pourquoi vous avez choisi ce dialogue finalement entre le laboratoire et les traditions ? Ça vous paraissait important de rappeler aussi comment les plantes sont ancrées dans les sociétés depuis très longtemps ?
Ça nous semblait important et en fait c'est venu comme une évidence parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on appartient à un laboratoire qui est interdisciplinaire. Lucia, elle a vraiment ce côté interdisciplinaire, donc pas que biologie mais aussi sciences humaines et sociales.
Ouais.
Et donc en réalité c'était comme une évidence de présenter aussi cet aspect-là plus sciences humaines et sociales de cette sensibilité aux plantes qui effectivement va dépendre des cultures, va dépendre de l'histoire aussi qu'on a avec la nature. Donc tout ça, en fait, c'était vraiment évident qu'il fallait le rappeler, parce que ce que nous, on perçoit des plantes aujourd'hui, c'est pas le cas dans le monde, enfin, c'est pas forcément le cas dans le monde entier.
C'est ça, donc ça c'est une perception nous très occidentale, hein. Et quand on va dans d'autres sociétés, justement, vous parlez par exemple de l'Amazonie, là il y a un dialogue qui est très très ancien avec les plantes.
Complètement, il y a de nombreuses cultures des autochtones qui ont ce comportement, cette sensibilité végétale et qui ont une notion très différente. Par exemple, on parlait dans le livre de certaines personnes qui voient les plantes comme des membres de leur famille. Donc c'est des approches qui sont totalement différentes. C'est une vision, c'est une interdépendance, c'est cette capacité de voir la vie comme une interdépendance, tout le vivant. Du moins, qui est très différente de ce qu'on a pu vivre dans la culture occidentale.
Oui, et c'est d'autres formes de connaissances aussi.
Complètement.
Dont on pourrait s'inspirer largement aujourd'hui.
On pourrait s'en inspirer. Après, c'est pas forcément des approches qui sont scientifiques. Elles sont plus sensibles, elles sont plus quotidiennes, elles sont dans l'apprentissage et elles sont dans le quotidien. Mais effectivement, je pense qu'il faut aussi se recentrer l'humain. On fait partie du monde animal, on fait partie de la nature et du vivant en général, et c'est ça qu'apporte ces savoirs autochtones aussi. C'est repositionner l'humain par rapport à et c'est quelque chose qu'on a un peu déconnecté finalement dans le monde occidental.
Oui. Mmh. C'est-à-dire l'enlever du sommet de sa pyramide.
C'est un peu ça.
Et pour le remettre dans le grand monde du vivant, dont les plantes évidemment font partie. On parlait de ce langage des plantes, il y a ces échanges de signaux chimiques, par exemple entre les arbres et les racines. Et là, on peut vraiment parler, dans ce cas-là, d'un langage végétal propre aux arbres ?
Alors, si vous parlez des composés organiques volatiles ou
oui, c'est ça, oui. Le langage chimique.
Oui. Oui, en réalité, ce sont des molécules qui sont produites par les plantes et qui sont perçues par d'autres espèces, mais même aussi par des animaux, des insectes, par exemple. Donc, est-ce que c'est un langage propre au végétal ? Ben, peut-être pas forcément, puisque c'est une manière de communiquer aussi entre règnes de vivants. Donc, en fait, finalement, c'est des molécules qui peuvent être perçues par d'autres types de vivants que le végétal.
Et c'est pour dire quoi, alors, quand il y a justement ce langage chimique là qui est utilisé, c'est pour exprimer quel type d'information ?
Bah, y a des signaux d'alerte. Hein, on voit, par exemple, quand un herbivore va croquer la feuille d'une plante, elle va libérer ses composés organovolatiles qui vont être libérés, par exemple, dans la forêt. Et les plantes vont réagir à ces composés organovolatiles qui ont été libérés par la plante qui a été attaquée, alors qu'eux-mêmes ne sont pas attaqués. Et là, par exemple, on va avoir des feuilles qui vont devenir un peu plus épaisses parce que, pour que l'herbivore ait du mal à mâcher, par exemple.
Et ça, toutes les plantes le font à l'approche, justement, de prédateurs, entre guillemets ?
Alors, pas toutes les plantes, mais en tout cas, il y a des études qui montrent qu'il y en a énormément. Les composés organovolatiles, par contre, ça, oui, c'est toutes les plantes qui en libèrent.
Mmh. Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélée par les sciences, c'est chez Ulmer. Je voudrais également signaler tout de suite les illustrations de Claire Marta, qui a fait un boulot vraiment considérable et admirable dans cet ouvrage. On poursuit la découverte de vos travaux de recherche avec vous, Delphine Arbelet-Bonin et Lucia Sylvain Beaufanti. Vous êtes les invités de la Terre au Carré. Et puis vous répondrez également aux messages qui arrivent pour vous sur la page de l'émission et nos réseaux sociaux.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Bruno Mouillat et son équipe veulent démontrer que les arbres sont dotés d'une sensibilité méconnue. Qu'ils ont des sens, comme les hommes, à commencer par le toucher.
Voilà, j'ai la plante là.
Démonstration avec ce jeune peuplier de 4 mois.
Ce qu'on essaye de voir, c'est comment il sent le vent. Donc on a créé ce dispositif expérimental là, qui permet d'envoyer des petites impulsions de vent. Donc nous, ce qu'on a étudié, c'est vraiment démontrer que c'est une vraie perception, c'est-à-dire qu'elle a un sens, qui est chez nous le sens du toucher, qui lui permet à elle surtout de savoir s'il y a du vent ou pas.
Conclusion, l'arbre perçoit, analyse, calcule et s'adapte.
Voilà l'histoire de ce jeune peuplier avec le scientifique Bruno Mouillat, extrait d'Envoyé spécial. C'était en 2017 sur les nouveaux sens des arbres. Delphine Arbelet-Bonin, vous êtes ingénieure d'études en biologie végétale et Lucia Sylvain Beaufanti, doctorante en géographie et biologie. Vous êtes toutes les deux à l'université Paris-Cité et vous publiez donc Sensible par nature aux éditions Ulmer. Bruno Mouillat, vous le connaissez. Au sujet des arbres, justement, qui n'en finissent pas de faire parler d'eux finalement et qui ont été largement sur cette question, on parlait du langage, de la communication popularisée par le livre de Peter Voleben, La vie secrète des arbres. Comment on se situe justement quand on est scientifique par rapport à ces questions ? Il y a eu beaucoup de critiques sur ce livre qui était un best-seller mondial, avec parfois la critique de trop d'interprétations, d'anthropocentrisme. Est-ce que c'est un sujet sur lequel il faut être très très précautionneux quand on est scientifique, Delphine Arbelet-Bonin ?
Moi, mon point de vue, effectivement, c'est d'être précautionneuse parce qu'on peut vite mal interpréter les choses et faire des raccourcis. Mais notre langage, à nous, humains, nous fait employer des mots qu'on a l'habitude d'employer et qu'on a tendance à employer pour d'autres vivants. Mmh. Donc parfois, c'est difficile de ne pas utiliser tel ou tel mot, surtout pour se faire comprendre par des personnes qui ne sont pas forcément scientifiques.
Comme nous, par exemple, hein, aujourd'hui, donc, à ce micro.
Donc finalement... C'est difficile de critiquer parce que tout le monde fait ce qu'il peut, surtout que l'idée principale, c'est quand même de transmettre des informations voilà, à un public large. Mmh. En même temps, c'est vrai qu'il faut être prudent sur l'interprétation de ces mots-là et de ce que ça veut dire scientifiquement.
Lucia Sylvain Beaufanti, est-ce qu'il y a des mots, vous interdisez d'employer justement dans le cadre de vos travaux scientifiques ?
Alors,
pour parler de la sensibilité des plantes ?
Je m'interdis d'utiliser, je crois pas. Si j'utilise des mots qui ont tendance à être controversés, j'aime bien et à chaque fois mettre les définitions que j'utilise pour définir ces mots utilisés.
Qu'est-ce qu'il y a comme mots controversés, par exemple, dans le domaine des plantes ?
Le mot intelligence,
ouais, okay.
Par exemple. L'intelligence, c'est très controversé. Il y a eu une grande controverse, justement, dans la communauté des biologistes végétales sur l'intelligence des plantes. Notamment suivant l'essor de plein de découvertes, hein, comme celle du toucher de Bruno Mouillat, qui lui aussi a montré la proprioception, donc cette capacité à percevoir où se situent nos membres dans l'espace. Qu'il a montré d'ailleurs avec le peuplier, donc c'est de superbes études. Et donc, oui, l'idée c'est justement de définir à chaque fois ces mots.
Ouais, donc l'intelligence c'est C'est rayé chez vous ?
Alors l'intelligence, non, c'est pas rayé justement parce que on peut utiliser une définition qui est la capacité à percevoir et à résoudre et à s'adapter dans son environnement et à ce qui se passe. Donc pour moi, si j'utilise ce terme-là avec cette définition-là, ça marche. Par contre, si on utilise une définition comme celle d'Einstein qui disait la vraie intelligence, c'est la capacité à imaginer, bah là, dans ces cas-là, on n'a pas les outils pour montrer qu'une plante imagine. Donc non, on peut pas l'utiliser, mais ça dépend vraiment des définitions.
Quels sont vos outils d'ailleurs, Delphine Arbelé-Bonin ? Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui qui permet d'avancer sur la connaissance de la sensibilité végétale et qu'on n'avait pas évidemment il y a quelques décennies, voire siècles ?
Alors, il y a quelques. Alors, nous, notre expertise dans le laboratoire, c'est vraiment l'électrophysiologie végétale, donc l'utilisation d'électrodes qui permettent de mesurer des signaux électrochimiques chez les plantes.
Oui.
C'est ce que disait Lucia, donc c'est des outils qui sont utilisés aussi en neurobiologie. Chez l'animal.
Donc c'est des petits capteurs que vous posez directement sur les feuilles par exemple ?
On ne les pose pas, enfin, c'est surtout sur les tiges aussi, mais oui effectivement c'est soit intrusif, soit autour de la tige et donc on mesure ces signaux-là et ça nous permet, c'est des signaux qui sont vraiment très rapides et donc qui nous permettent de savoir à quel point la plante a réagi. Il y a aussi d'autres manières de... En fait ces signaux-là sont aussi reliés à des signaux calciques, donc ce qu'on appelle du calcium qui va se propager de cellule en cellule et donc on a des outils plus précis aujourd'hui pour mesurer ces signaux-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. On utilise aussi des caméras en time-lapse pour observer les mouvements.
Ah oui.
Voilà.
Sur du temps long, justement.
Sur du temps long, des choses qu'on ne verrait pas avec nos yeux.
Vous décrivez beaucoup les savoirs féminins, longtemps invisibilisés dans votre ouvrage, ceux des guérisseuses, des herboristes, des sages-femmes. Est-ce qu'on peut dire que les femmes ont eu vraiment une place très importante dans cette histoire végétale, Lucia Sylvain Beaufanti ?
Bien sûr, une place très importante, essentielle, primordiale. C'est vrai que dans les écrits, bon, il y a peu d'écrits justement parce que c'était majoritairement des hommes qui le faisaient à l'époque, mais on arrive à retrouver des écrits qui montrent qu'il y avait tout un savoir très puissant d'herboristes et de savoir au niveau de la maison, du soin aussi énormément, jusqu'à même encore aujourd'hui, mais de moins en moins.
Mais c'est plus des connaissances finalement orales qui se sont transmises de génération en génération. Mais il y a eu des femmes qui ont tenté de contrer un peu cette majorité d'hommes dans le monde du végétal. Et il y en a certaines, j'ai oublié son nom là tout de suite, mais qui s'est par exemple déguisée en homme pour pouvoir monter sur un bateau pour aller aussi faire les explorations à l'époque des grandes découvertes. Donc finalement, il y a quand même des figures comme ça qui ont tenté de montrer leur importance en réalité.
Oui. Toutes ces civilisations, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, anciennes, hein, qui percevaient déjà en tout cas et qui dialoguaient d'une certaine manière avec les plantes. Vous parlez de l'Afrique de l'Ouest par exemple, les plantes qui sont au cœur des rites de passage et de guérison. Qu'est-ce que ces pratiques peuvent nous enseigner là aujourd'hui, Delphine Arbelé-Bonin ?
Qu'est-ce qu'elles peuvent nous enseigner ? Je pense que c'est plus le côté sensible finalement à cette nature-là et aux plantes, le respect aussi de l'individu plante, la cohabitation. Je pense que ça aussi c'est important de pas forcément se sentir au-dessus, comme je disais tout à l'heure, mais dans ces régions-là finalement c'est vraiment une cohabitation qu'il y a avec la nature, et c'est même des individus qui sont parfois sacralisés, donc il y a même une notion de sacré aussi dans ces civilisations-là.
Et sans hiérarchisation justement, sans domination précisément, comme on a tendance à le faire, nous, encore une fois, dans nos cultures occidentales.
Exactement, nous c'est vrai qu'on a grandi, on a eu dans nos têtes cette image de l'homme en haut de la pyramide, ensuite les animaux, les végétaux et ensuite les minéraux, mais c'est vrai qu'eux n'ont pas du tout cette façon de voir la vie comme ça, c'est vraiment une interdépendance entre les plantes, les animaux, les humains, c'est vraiment... interdépendant.
Vous citez le philosophe John Dewey qui écrivait que l'humain et son environnement ne peuvent être pensés séparément. Ça, c'est un principe qui vous semble central, justement, dans cette histoire de plantes ?
Complètement. Complètement. C'est central. Et justement, on croit beaucoup au fait de expliquer et comprendre, mieux comprendre les plantes pour pouvoir justement encore mieux comprendre cette phrase-là.
On peut parler d'une écologie des relations, quasiment ?
Oui.
Pourquoi pas, oui, on pourrait parler d'une écologie des relations, une écologie du rapport à l'autre, une écologie à quel, enfin, oui, c'est ça, une écologie de la cohabitation, en fait.
De la solidarité, de l'attention et du soin aussi. Il en est question abondamment dans votre ouvrage. Et vous montrez aussi d'ailleurs que cette redécouverte, cette autre façon hein, d'être en relation avec les plantes et avec le végétal, passe aussi aujourd'hui par les villes. Pourquoi la présence des plantes urbaines vous semble déterminante aujourd'hui, Delphine Bonin-Arbelay ?
Il y a des études qui montrent que la présence de plantes en ville va améliorer le bien-être, le confort. Donc on a parce que elles émettent des composés volatiles qui en fait ont un effet sur nous qui nous permet d'être voilà mieux dans nos baskets. C'est comme ça. Et donc ça c'est des études qui sont montrées. Mais au-delà de ça. Finalement, c'est l'intégration de ces plantes-là en ville, même peut-être penser l'inverse, c'est-à-dire l'intégration de la ville dans la nature, et toujours ce principe de cohabitation, laisser faire les plantes quand... après, c'est une question d'équilibre aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des contraintes dans la ville, on a tendance à les enlever toutes pour éviter ces contraintes-là. En réalité, peut-être réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'elles ont besoin et est-ce que vraiment ça nous freine dans notre quotidien ?
Ouais, il y a un mouvement inverse quand même aujourd'hui de revégétalisation quand même beaucoup des villes. Hein. C'est aussi un enjeu pour la question climatique, Lucia Sylvain Beaufanti.
Oui, tout à fait. On voit
quand même beaucoup de villes qui ont cette démarche même
de replanter,
de créer des forêts urbaines, entre guillemets,
de évidemment,
mais de végétaliser quand même beaucoup. Ça vous paraît être important et intéressant en tout cas ?
C'est important pour notre santé, c'est important pour nos relations avec les plantes, c'est important pour sensibiliser, c'est important de les avoir autour de nous et pour notre santé aussi énormément.
Dans certains pays, la nature, donc parfois les plantes, se voit reconnaître une personnalité juridique. Est-ce que là aussi pour vous c'est un signe intéressant de basculement culturel vis-à-vis du végétal ?
Je trouve que oui, c'est intéressant, mais la nature en général, pas forcément que le végétal. Parfois c'est nécessaire parce que justement, cette forme de protection et de reconnaissance du fait que finalement la nature peut se débrouiller seule sans l'humain, c'est symboliquement intéressant. Et d'une part, parfois c'est nécessaire pour justement éviter des saccages qu'on connaît liés à des activités humaines non raisonnées en réalité.
On va se retrouver dans un instant pour la suite de ces découvertes scientifiques sur ce qu'elles révèlent de la complexité du monde végétal. Et vous allez en parler également avec les auditrices et les auditeurs, les messages et les questions, vos notes vocales, si vous souhaitez nous parler directement avec l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
En Israël et dans la communauté scientifique, les travaux de Lila Kadani font grand bruit. La chercheuse soutient que les plantes identifient les sons émis par des pollinisateurs et qu'elles en tirent profit.
On estime que plus de 30% de l'énergie de la plante sont gaspillées pour produire du nectar. Produire beaucoup de nectar tout le temps serait très coûteux et attirerait toutes sortes de voleurs. Bactéries, champignons, oiseaux. Si vous produisez peu de nectar quand les pollinisateurs ne sont pas là et que vous augmentez la concentration en sucre seulement quand les pollinisateurs arrivent, vous épargnez à la plante beaucoup de dépenses d'énergie inutiles.
Elle est mathématicienne israélienne, Lila Kadani, et là encore, ses travaux donc sur la capacité des plantes à entendre les pollinisateurs fait débat. On parle de la sensibilité des plantes avec vous, Delphine Arbelay-Bonin et Lucia Sylvain Beaufanti. Lucia Sylvain Beaufanti, vous connaissiez cette chercheuse ou pas, ou au moins les travaux ?
Je connaissais les travaux, oui, de cette chercheuse.
Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez alors ? Le fait que les plantes puissent percevoir les sons des pollinisateurs.
Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et ça ouvre un œil que j'avais pas avant parce que je savais pas que les plantes pouvaient percevoir ça. Et ensuite,
vous l'avez expérimenté vous-même ou pas ?
On l'a pas expérimenté nous, mais quand on a appris ça, ça allait dans le sens du message qu'on voulait porter, à savoir la capacité d'agir des plantes, parce que derrière cette perception-là, il y a des réactions qui se s'enclenchent.
Oui.
C'est-à-dire que il y a l'onagre de Drummond, qui elle est une plante qui est à Marseillan, en France,
oui.
Qui va percevoir le son de son pollinisateur et qui va produire un nectar beaucoup plus sucré quand elle aura perçu celui-ci. Alors que si c'est un autre son, une autre fréquence, un autre type d'animal, comme par exemple une chauve-souris, eh ben elle ne produira pas ce nectar plus sucré.
Delphine Arbelay-Bonin, ça vous épate, vous, en tant que scientifique, toujours ? ce type de résultats, de travaux.
Moi, je trouve ça... Oui, ça m'étonne toujours et je me dis mais oui, mais en fait, il y a tellement de choses encore à découvrir et en fait, on se rend compte que les plantes ont leur propre manière d'être au monde et de cette manière, en fait, tant qu'on n'a pas compris cette manière de penser, on ne sera pas capable de chercher les choses là où il faut les chercher.
Ouais.
Et je trouve que de se dire que, ok, les plantes, peut-être qu'elles sont capables d'anticiper, peut-être qu'elles ont une forme de mémoire, peut-être qu'elles sont capables d'apprendre, eh bien, ça nous donne une autre perspective pour chercher, en fait, les choses.
Mais il faut se mettre en capacité d'être à hauteur des plantes, hein, de quasiment se mettre dans leur tête, même si elles n'ont pas de tête et pas de cerveau, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est quand même une difficulté aussi pour notre espèce, telle que nous sommes.
Ouais. Se détacher de notre condition, en réalité.
Ouais. Ouais. Pour pouvoir accepter d'imaginer, de voir le monde, en tout cas, très, très différemment, dans ses interactions.
Oui, et c'est quand on le fait, et quand on arrive à voir justement toutes ces choses, toutes ces sensibilités, toutes ces façons de faire, que c'est encore plus merveilleux, parce que cette condition ancrée, cette façon de vivre du végétal amène des choses magnifiques.
Racontez-nous des expériences, vous, que vous menez, par exemple, dans votre laboratoire et qui pourraient aussi nous surprendre. Vous en racontez une, je vais vous emmener déjà sur une piste, c'est celle sur les plants de riz anesthésiés. Pourquoi est-ce qu'on anesthésie des plants de riz, en fait, au départ? C'est quoi la démarche?
Alors, la démarche, au départ, c'est pas nous qui l'avons eue, elle date du 19e siècle, c'est Claude Bernard qui a commencé à anesthésier les plantes. Et il a mis l'hypothèse que tout ce qui est vivant est anesthésiable, le reste est mort. Ouais. Et en fait, il postulait que tout le vivant était anesthésiable, et aujourd'hui, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai, et nous, justement, on va voir en quoi les plantes sont anesthésiables au plus près, parce que c'est vrai que les phénomènes de l'anesthésie est un phénomène qui mérite d'être encore compris aujourd'hui. On n'a pas tous les détails des mécanismes qui sont impliqués, même si on l'utilise depuis plus de 250 ans en médecine. Et donc, c'est sympa d'aller voir, justement, en quoi c'est possible d'anesthésier une plante, ce que ça fait, par où ça fonctionne et toutes ces questions-là.
Et quand vous décidez d'anesthésier un plant de riz, alors, qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors, ce qui se passe, donc, on met des électrodes à l'intérieur de la plante, donc dans les tiges, et on observe ces signaux qui passent. Alors, on a étudié la sensibilité, mais pour étudier cette sensibilité-là, on a anesthésié les plantes. Donc, on avait une plante qui était anesthésiée, une autre qui ne l'était pas, et à chaque fois, on mesurait ces signaux électriques. Quand on brûlait la plante. Donc le fait de brûler un bout de la feuille montrait un signal, un peu comme nous quand on met notre main sur une plaque chauffante. Et on enregistrait ce signal. Et bien la plante qui était anesthésiée n'avait pas ou que très peu ce signal, elle était devenue insensible à la brûlure.
Donc la plante non anesthésiée, elle réagit comme un humain à la chaleur ou à la
brûlure?
Elle
réagit, elle n'enlève pas sa main comme un
humain.
Non, mais
elle se contracte.
Mais elle ne se contracte pas non plus, mais en tout cas on a ce message qui est significatif de la brûlure.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme expérience dans vos laboratoires, Delphine Herbelet-Bonin?
Alors nous, on s'intéresse aussi, avec une doctorante qui s'appelle Aurore Giré-Timsit, à mesurer ces signaux électriques sur des arbres en ville, justement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces signaux-là, finalement, ils sont très précoces, et tellement précoces que parfois, on est capable de voir ces signaux-là avant même qu'il y ait un changement de physiologie qui arrive bien plus tard. Et ça montre à quel point les plantes sont réactives.
Mais à quoi, par exemple, sur les arbres en ville dont
Par exemple, les fortes chaleurs, quand il y a des périodes caniculaires. C'est insupportable pour l'humain, pour les citadins, mais c'est aussi insupportable pour les plantes. En réalité, elles subissent cette chaleur-là. Donc, comment elles réagissent? Est-ce qu'on peut finalement identifier des signaux précoces? Ça, on s'intéresse à ça.
Oui.
Et ce que je trouve, moi, hyper intéressant et passionnant, surtout quand on étudie ces types de signaux-là, c'est de voir à quel point c'est dynamique et c'est réactif. On imagine tellement les plantes lentes, passives, mais en réalité, à l'intérieur, il se passe des choses vraiment beaucoup plus dynamiques que ce qu'on a l'habitude d'imaginer.
Oui. Vous décrivez des vagues d'ions qui se propagent dans les tissus après une blessure. C'est une autre expérience que vous avez menée?
En réalité, ce sont aussi les vagues d'ions sont corrélées aux signaux électriques. Donc ces ions-là, c'est le calcium dont je vous parlais, le potassium, finalement c'est des ouverts. En réalité, vous avez une cellule. Voilà, les organismes sont composés de cellules qui ont des canaux à leur surface, donc des pores qui s'ouvrent et qui se ferment, qui permettent de créer un équilibre d'ions entre l'intérieur et l'extérieur. Quand il y a un stimulus qui vient de l'extérieur, c'est canaux s'ouvrent et donc on a des mouvements d'ions qui donnent naissance à ces signaux électriques dont on parle.
Ouais. Lucia, Sylvain Bonfanti, pour compléter.
Et par exemple, cette plante qu'on connaît, qui s'appelle la sensitive, elle s'appelle Mimosa pudica, c'est une plante qui ferme ses feuilles quand on la touche.
C'est vrai,
C'est pas une plante carnivore. Mais
on en avait une dans le bureau de la Terre au Carré avant.
Ouais. Ah, mais c'est génial, moi j'adore. Et puis même les voir, je conseille à tout le monde d'en avoir une. Et bien justement, on peut voir maintenant avec les outils ce qui se passe à l'intérieur de la plante. On arrive à voir ces messages dont Delphine parle, ces propagations de messages. Et on voit qu'au fur et à mesure que le message passe après avoir été touché, on a cette fermeture qui est induite. Donc en fait, ce message, il est vraiment à la base, il médie tous les comportements et les actions qu'il y a dans les plantes.
Allez, on a plein de questions pour vous de la part des auditeurs et des auditrices. D'abord, petit message de Sylviane. C'est Jeanne Barret, dit-elle, qui en 1766 a fait des recherches botaniques déguisées
en
homme.
C'est ça, exactement, merci.
Merci Sylviane. Alors justement, au sujet de la chaleur, il y a un message de Yves. Quand l'été, les plantes, les arbres souffrent de la canicule et de la sécheresse, est-ce qu'ils émettent des molécules de stress que l'homme serait capable de ressentir et qui le ferait déprimer à son tour? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Delphine Arbelé-Bonin?
Peut-être. J'ai pas d'étude en tête qui le montre. Ce qui est certain, c'est que un état de stress chez une plante va induire la production de molécules volatiles. Mm-hmm. Est-ce que ça a un impact négatif sur nous? À tester.
Ouais. En tout cas, voilà, ça vous fait une piste de recherche, pourquoi pas mener. Lucia Sylvain Bofanti, Callaghan, nous aimerions que vous lui parliez des capacités des plantes à se disperser, à disperser leurs graines. Si elles ne sont pas intelligentes, dit-il, en tout cas, elles sont hyper malines.
Oui, complètement. Peut-être que Delphine aura plus de réponses que moi sur ces questions-là.
Les graines, alors ce qui est passionnant dans la dispersion des graines, c'est non seulement les stratégies, si on peut appeler des stratégies de manière de dispersion de graines, soit par les animaux, soit par le vent, soit par des mécanismes physiques qui ouvrent le fruit, qui font éclater le fruit et qui emmènent les graines bien loin. D'autres graines qui vont planer, il y a un exemple dans le livre, d'une graine qui pousse dans les tropiques, qui fait près de 10 cm et qui a comme un petit planeur et qui va jusqu'à 100 mètres de distance. Tout ça, en fait, c'est le résultat d'une évolution qui a duré des millions d'années.
Et on oublie à quel point nous aussi on disperse les graines pour les plantes tous les jours.
C'est ça, on les transporte aussi sous nos semelles, par exemple.
Exactement.
Clara, pensez-vous que c'est de la maltraitance de faire des plantes stabilisées? Est-ce que vous avez une réponse?
Alors, moi, j'ai une réponse sur la question de la maltraitance, de la douleur, de la souffrance végétale.
Oui.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'études qui montrent aujourd'hui que les plantes souffrent. Nous, on essaye de réfléchir sur ces sujets-là parce qu'on parle de douleur, de sensibilité. Donc, il y a beaucoup cette question qui sort. Mais en fait, on se demande si la douleur peut être propice à un organisme qui est fixé. Justement, on a parlé au long de cette émission de cette nouvelle vie, cette vie végétale qui est particulière. Nous, on a un intérêt à avoir mal, on a un intérêt à sentir la douleur pour enlever justement notre main d'une plaque très chaude. La plante, elle subit et elle fait face à toutes ces choses autour d'elle. Et donc, peut-être que ce ne serait pas nécessaire. Mais la douleur n'implique pas forcément la sensibilité.
Et puis Céline, pour terminer, nous dit, est-ce qu'il n'y a pas une certaine intelligence des plantes concernant la coévolution avec les insectes, imitation d'insectes, production de phénomènes, etc. De phéromones, je pense, c'est ce qu'elle voulait dire.
C'est le type de débat sur les questions d'intelligence qui émerge. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Ce qui est sûr, c'est que c'est la résultante effectivement de la coévolution, d'une forme de communication entre une communication visuelle cette fois pour les fleurs qui adoptent une forme particulière. Mais est-ce que c'est une intelligence? Ça dépend ce qu'on entend par intelligence.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélée par les sciences. C'est aux éditions Ulmer avec les illustrations remarquables encore une fois de Claire Martha. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues.
Merci.